Radio de la Paix, il est 7 heures. Le bulletin de 7 heures, Jean-Claude Mabéa.
Bonjour et bienvenue à tous au sommaire de la première édition de l'actualité de ce mercredi 31 janvier 2024. Rumeur du décès d'un Ivoirien dans des incidents au Sénégal au soir de l'élimination de la CAN des Lions de la Teranga. L'ambassade de Côte d'Ivoire dans le pays dément l'information et appelle au calme et à la retenue. Un sommet Italie-Afrique vient de se tenir à Rome sur les enjeux pour l'Afrique. Nous aurons les éclairages du professeur Bamba Abdoulaye, spécialiste en relations internationales. Et puis sur le continent, les tractations se multiplient après l'annonce du retrait du Mali, du Burkina et du Niger de la CEDEAO. Après la revue des titres des journaux de Francis Cassi, Constant Maillet sera en ligne avec Julien Tinguin, le directeur technique de l'ITIE, pour parler de l'industrie extractive qui se porte d'ailleurs bien en Côte d'Ivoire dans le cadre de l'invité de la rédaction. Rumeur sur les réseaux sociaux à propos d'incidents survenus entre Ivoiriens et Sénégalais à Dakar après le match Côte d'Ivoire-Sénégal. La première conseillère de l'ambassade de Côte d'Ivoire dans ce pays dément l'information selon laquelle un étudiant ivoirien serait décédé à la suite de ces incidents. Affirmant s'être rendu dans le principal centre hospitalier de Dakar pour vérifier l'information, il est ressorti qu'aucun citoyen ivoirien n'a été hospitalisé. C'est d'ailleurs pourquoi Abouya Kokola Marie-Cécile, jointe par nos confrères de la RTI 1, la télévision nationale, appelle les Ivoiriens au calme et à la retenue. Nous l'écoutons.
Nous avons été contactés par des Ivoiriens, des jeunes Ivoiriens, des étudiants, qui nous ont dit qu'un jeune Ivoirien aurait trouvé de la mort dans les manifestations de rue et que le corps serait à l'hôpital FAN. L'hôpital FAN, c'est le CHI d'ici. Automatiquement, nous avons saisi le directeur du protocole et l'ambassade. Nous nous sommes rendus sur les lieux à l'hôpital FAN pour procéder aux vérifications. Au niveau de la morgue, nous avons été reçus par le responsable en chef qui nous a dit qu'il n'y a pas enregistré de corps d'Ivoirien à la morgue. Nous avons vérifié aussi aux urgences, puisque c'est le nom de cet hôpital qui circulait sur les réseaux sociaux. Et le médecin en chef du service des urgences nous a aussi dit qu'il n'a pas reçu de blessés ivoiriens ni de morts enregistrés qui soient de nationalité ivoirienne. Mais je voudrais appeler les compatriotes ivoiriens au calme. C'est vrai qu'il y a eu quelques mécontentements de façon isolée, mais qui ont été ciblés et qui ont été contenus par les forces de l'ordre. Et donc, on appelle tout le monde au calme. Pour l'heure, ce qui est circulé sur les réseaux sociaux ne se sont pas avérés. L'ambassade continue les investigations dans les autres hôpitaux, mais pour l'heure, n'a pas enregistré de décès au niveau des Ivoiriens. Donc, je voudrais appeler les Ivoiriens au calme.
Abouya Kokola Marie-Cécile, la première conseillère de l'ambassade de Côte d'Ivoire au Sénégal. Retour en Côte d'Ivoire pour revivre l'ambiance après la qualification des éléphants pour les quarts de finale. Adaloa, notre correspondant, a suivi la rencontre Côte d'Ivoire-Sénégal dans une ambiance surchauffée au village Cannes de Lobia. Après la victoire des Pachydermes, jusque tard dans la nuit, les supporters ont manifesté leur joie dans les rues de la ville. D'ailleurs, ils se disent confiants pour la suite de la compétition dans ce reportage de Jean-Noël Kwame.
Alors que le Sénégal mène déjà au score d'un but à zéro, le promoteur du village Cannes à l'espace Lobia de Daloa, Michel Batté, se dit sceptique, mais garde tout de même espoir.
Notre espoir, c'est que la Côte d'Ivoire avance progressivement vers la finale, mais je commence à douter profondément. Ouais.
Surtout qu'on est à 1-0.
C'est terrible, ouais. Je me suis retourné là pour regarder ailleurs. Ils ont marqué quand même. Comme le football, c'est pas une logique, on espère qu'on va gagner.
À la pause, les pronostics vont bon train. Les supporters gardent la foi.
Du moment où on nous a appelé pour dire que vous êtes qualifié là, nous, on va battre Sadio Mané.
Grâce à lui. Mais ça bien, je voulais veiller, je supporte mon pays. Il y a encore de l'espoir.
Djabi Ouma, deuxième mi-temps là, on a gazé bien fait des 1. Ça va aller, on ne te décourage pas quoi.
En deuxième période, lorsque l'arbitre indique le point de pénalty pour les éléphants, c'est l'euphorie.
Ouais, il y a du fort. On doit égaliser ce but.
On doit marquer.
On a gagné le Sénégal 2-1 tout à l'heure. C'est quoi ça là?
Après les prolongations, l'épreuve des tirs au but et la victoire des éléphants, l'ambiance atteint son paroxysme au village Khan de Lobia.
Connais Aïcha, la coupe là, c'est pour nous.
C'est trop fort. On a qualifié, on a ressuscité.
Les coups fidèles à Nice, c'était vraiment difficile et plus serré. Dans les tirs au but, les joueurs ont fait preuve de professionnalisme. Pour la suite de la compétition, on va remporter la coupe.
Grâce à cette qualification, les éléphants de Côte d'Ivoire gardent toutes leurs chances de remporter cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Jean-Noël Kwame, Daloa, Radio de la Paix.
Cette victoire des éléphants aux dépens des lions de la Teranga du Sénégal a également été célébrée à Boaké. C'était l'hystérie totale dans les rues, comme le témoigne dans ce reportage Joseph Assalé, notre correspondant régional dans le Gbeke.
Combien étaient-ils, les supporters et supportrices des éléphants dans les rues de la ville de Boaké? Nul ne saurait répondre avec exactitude. Pour dire vrai, les hommes, les femmes, les jeunes et les enfants de tous âges, à pied, à moto ou en voiture, ont pris d'assaut les rues de la capitale de la région de Boaké pour savourer la victoire des éléphants aux dépens des lions de la Teranga.
Qui peut éliminer l'Ivoirien, il est mort. Il n'y a pas de l'homme pour la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de l'homme pour la Côte d'Ivoire. Ça reste ici, en crève, puis ça reste.
Bon, vraiment, je suis très heureux ce soir. Qui aurait cru que la Côte d'Ivoire allait gagner ce soir? Je ne suis pas confiante. Non, on a tout pris.
Ça dit, je ne peux pas faire commentaire dessus. Parce que depuis le match-là a commencé, là, moi-même, je n'ai pas plus regardé le match-là. Ça dit, j'étais sur mon pied, je tournais, 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 tournais. Sincèrement dit, je n'ai pas de mots à dire si ce n'est pas pour remercier Dieu.
Drapeau ivoirien dans les mains de la foule, c'est l'hystérie totale partout où nous sommes passés.
Ce soir-là, moi, je suis très ému pour la qualification de notre pays. Aujourd'hui, on voit que les joueurs ont moué le maillot et nous sommes fiers. On prie toujours pour eux, pour qu'ils puissent continuer, que la coupe reste en Côte d'Ivoire.
Dans les matis et bars, l'on promet de faire la fête toute la nuit, car les éléphants ont mangé du lion et la suite de la compétition s'annonce prometteuse pour les pachydermes ivoiriens. Joseph Assalé, Boaké, Radio de la Paix.
Pour les dernières rencontres comptant pour les huitièmes de finale, le Mali a éliminé hier le Burkina Faso sur le score de 2-1 au stade Amadou Gon Coulibaly de Korogo. Les aigles du Mali rencontreront donc les éléphants de Côte d'Ivoire en quart de finale au stade de la paix de Boaké le samedi 3 février prochain à 17h. Et au stade Laurent Pokou de San Pedro, le Maroc a été battu par l'Afrique du Sud 1-0 et file en quart de finale. Les Bafana Bafana seront opposé aux Requins bleus du Cap-Vert le même samedi. Les autres matchs des quarts de finale de la CAN 2023 se joueront le vendredi 2 février à 17h, Nigeria-Angola et à 20h, Guinée-République démocratique du Congo. Plus de 50 délégations de pays africains participent depuis dimanche au sommet Italie-Afrique. Un sommet qui va s'étendre sur 2 jours. Le gouvernement italien veut présenter son nouveau plan stratégique qui a pour but de réévaluer l'approche du pays à l'égard du continent africain. Sur les enjeux de ce sommet, les explications de Bamba Abdoulaye. Il est professeur de relations internationales à l'université Félice Faubourg de Cocody.
Depuis d'abord, un sommet de plus. L'Afrique est devenue comme une femme qui est convoitée par tous. Les grandes puissances comme les moyennes puissances. L'Italie est une petite puissance en Europe. L'Italie estime également qu'elle doit chercher sa place sur le continent africain. Il appartient maintenant aux Africains de définir avec objectivité les contours de cette coopération. Voilà ce que m'inspire le sommet Italie-Afrique.
Qu'est-ce que l'on pourrait mettre dans le contenu de ces différentes coopérations entre l'Afrique et l'Italie?
Et donc, la question de l'immigration. L'Italie est une porte d'entrée sur l'Union européenne. La question sécuritaire. Voici un peu quelques enjeux. Ce sommet Italie-Afrique. Tout le monde est unanime que l'Afrique est le continent de l'avenir. Donc tout le monde se tourne vers l'avenir. Il appartient maintenant au continent africain, aux Africains surtout, de pouvoir tirer un peut-être meilleur profit de ce reflux d'intérêt que ces puissances occidentales ou ces puissances tout court ont vis-à-vis du continent africain. Ça, c'est la première des choses qu'il faut dire. Ensuite, il faut que l'Afrique même prenne conscience également de ses potentialités et ne pas attendre que les CE viennent mettre en valeur ses potentialités. Et si nous on parvient à mettre cela en valeur, on aura encore des revenus beaucoup plus intéressants que ce qui est donné par l'extérieur.
Bamba Abdoulaye, professeur de relations internationales à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, a été joint par Gapiena Ouattara. Plus de 90% de la réserve botanique de Divo, qui couvrait près de 9000 hectares dans les années 60, aujourd'hui occupée par des villages et des plantations. Information donnée par Yao Ngoran, le directeur régional de l'environnement, du développement durable et de la transition écologique de Divo, que nous vous proposons d'écouter à présent.
La réserve de Divo existe depuis les premières années d'indépendance de notre pays, mais malheureusement, nous constatons aujourd'hui que cette réserve a été colonisée par des villages, par des plantations, à plus de 90%. Il y avait 9000 hectares, aujourd'hui, il y a une dizaine d'hectares qui subsistent, on peut considérer comme étant encore forêt, non colonisée. La préoccupation, ainsi qu'on a cette réserve, c'est de la reconstituer. Mais cela rencontre plusieurs obstacles parce qu'il y a les questions sociales.
Il y a un reboisement qui avait commencé. Où en est ce reboisement?
Justement, la partie dont je parle, qui est aujourd'hui considérée comme étant encore forêt, c'est la partie qui a été reboisée. Et donc, qui est surveillée par notamment l'Office Ivoirien des Parcs et Réserves, qui dépend du ministère de l'Environnement, et le ministère des Eaux et Forêts aussi. On est en relation avec des ONG qui viennent pour reboiser. Nous ne faisons que l'encadrement technique.
Quelle ONG, par exemple?
Solidaridad International, qui est intervenue pour reboiser quoi, environ 5 hectares. Il y a eu la GIZ, la coopération allemande, qui a permis de reboiser aussi 20 hectares. Mais malheureusement, après, il y a un jeu de cache-cache. Les gens viennent notamment pour couper les bois qui ont été plantés, pour faire les plantations à nouveau.
Yao Ngoran, le directeur régional de l'environnement, du développement durable et de la transition écologique de Divo, était au micro de notre correspondant régional Abel César Cassin. Actualité hors de Côte d'Ivoire. Dimanche dernier, les pays de l'Alliance des États du Sahel, Mali, Niger et Burkina Faso, ont annoncé leur retrait de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Depuis, entretien et initiatives au sommet de l'organisation et des États de la sous-région se multiplient pour faire face à la situation et trouver une solution. À la suite du Mali et du Burkina Faso, les autorités nigériennes ont annoncé hier, mardi, avoir officiellement informer la CEDEAO du retrait de leur pays de l'organisation. L'Union africaine a exprimé dans un communiqué son profond regret après cette décision des trois pays, nous apprend l'AFP. Et puis, 30 ans après le génocide des Tutsis, les Rwandais retrouvent toujours régulièrement des restes de victimes des massacres de 1994. À l'issue d'une semaine de fouilles, un total de 210 corps ont été découverts, a indiqué lundi à l'AFP un responsable au sein de l'association Ibuka, principale organisation de rescapés du génocide. Sans transition, on passe à la revue des titres des journaux et c'est assuré aujourd'hui par Francis Cassi. Bonjour Francis Cassi.
Bonjour Mabéa, bonjour à tous. Entre autres sujets à la une de vos journaux, seuls 5 au menu de notre revue des titres de ce mercredi. Et nous l'ouvrons par cette affaire de supposés migrants ivoiriens qui fait tant parler. Immigration clandestine, après une rencontre avec la présidente du conseil italien, Timoco Meillier lève toutes les équivoques sur l'origine des migrants. Titre à ce propos, l'avenir. D'où cet écho de l'expression « prétendus migrants illégaux ivoiriens ». En marge du sommet Afrique-Italie, Timoco Meillier met le point sur les « i ». Autre sujet, des secousses qu'il y aurait au RHDP. On croit à cette manchette de Le Sursaut. Guerre entre hauts cadres du parti au pouvoir. Malaise au RHDP quand les héritiers de Ouattara s'empoignent. Avant que, là-dessus, le quotidien d'Abidjan ne renchérisse ainsi. Situation sociopolitique, pourquoi le camp Ouattara se livre une guerre? Ce qui oppose Sissé Bakongo à Big Togo. Sur un autre chapitre, la une de Le Nouveau Réveil attire notre attention avec cette interrogation d'Assali Timoko, député maire du Thiassali. Où sont passés les milliards d'impôts non reversés aux mairies et aux régions? L'actualité s'ajoute si c'est aussi l'annonce depuis dimanche du Burkina Faso, du Mali et du Niger qu'ils quittent la CEDEAO. Ce qui fait écrire le patriote ceci. CEDEAO, retrait du Mali, du Niger et du Burkina Faso, les gros risques de faire cavalier seul. Et le Nigeria n'est pas du tout content. Selon notre voix indiquant, retrait annoncé du Mali, du Burkina Faso, du Niger, de la CEDEAO, la grosse colère d'Abuja. Pendant que le temps, sur le même sujet, barre 6-1. Au mauvais fonctionnement de la CEDEAO, les pays de l'AES donnent raison à Gbagbo, la CEDEAO se ridiculise encore. Enfin, terminons notre revue des titres de vos journaux de ce 31 janvier par la CAN se jouant en Côte d'Ivoire. Et à ce sujet, le quotidien Les Soyeux Ivoiriens écrit CAN 2023, quart de finale Côte d'Ivoire-Mali. Éléphant confirmé le réveil. Ce que corrobore le patriote avec cette parole Sidou Faye Emers, entraîneur des éléphants. Mon équipe doit aller jusqu'au bout. Avant que, concernant le Maroc qui est tombé hier face à l'Afrique du Sud, l'avenir n'indique ceci. Éliminé par les Bafana Bafana, Maroc, une symphonie inachevée. Merci et bonne lecture de vos journaux.
Merci à vous Francis Cassi. Je rappelle que vous reviendrez à 8h pour le même exercice. Dernier temps fort de ce bulletin d'information, l'invité de la rédaction est celui qui est en ligne avec Constant Maillet, se nomme Julien Tinguin. Il est le directeur technique au Conseil national de l'ITIE. Entendez l'initiative pour la transparence dans les industries extractives en Côte d'Ivoire. Selon le rapport 2021 de l'ITIE, publié en 2023, le secteur a fait de bonnes performances. Ce secteur extractif connaît donc une embellie en Côte d'Ivoire. C'est ce qui ressort de cet entretien que nous vous invitons à suivre à présent.
Monsieur Tinguin, directeur technique du Conseil national à l'ITIE, ou bien de l'ITIE, c'est l'initiative pour la transparence des industries extractives. Bonjour.
Bonjour, monsieur Maïlé.
C'est quoi l'ITIE?
L'ITIE est un mécanisme volontaire qui vise à renforcer la transparence, la bonne gouvernance des revenus du secteur du pétrole, du gaz et des mines dans les pays qui sont riches au niveau de ces ressources extractives. Donc l'ITIE, si on veut résumer, est une initiative qui exige à ce qu'il y ait la divulgation au public des versements qui sont faits à l'endroit du gouvernement par les entreprises extractives et aussi les revenus que le gouvernement reçoit de la part des entreprises extractives.
En Côte d'Ivoire, où l'ITIE existe, qu'est-ce que l'ITIE a fait concrètement pour que ce secteur-là de l'extraction, en quelque sorte, soit protégé en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que l'ITIE a fait?
L'ITIE élabore chaque année des rapports. L'ITIE échange avec le gouvernement, le secteur extractif, la société civile, les populations, sensibilise sur la base des rapports ITIE que nous élaborons et suscite des débats publics.
Parlons-en, les rapports. Le rapport de cette année 2023, vous l'avez publié. Alors, qu'est-ce qu'on retient de ce rapport? Qu'est-ce qu'on peut retenir?
Le rapport ITIE contient des chiffres et des informations en termes de production, en termes de revenus.
Comment se présente donc ce qu'on appelle la performance dont parle ce rapport de l'année 2021 paru en 2023, c'est ça?
Tout à fait.
Comment se présente cette performance-là?
Vous avez dit le rapport 2021 paru en 2023 parce que en réalité, nos rapports sont basés sur les données qui sont auditées, certifiées par les commissaires aux comptes des différentes structures. Et les entreprises, en général, fournissent leurs données certifiées, auditées de l'année N. Ces données sont disponibles en année N plus 1 au moins. Donc, c'est ce qui justifie cela. Donc, ceci étant dit, le rapport ITIE 2021 nous a permis de faire ressortir les paiements, donc les revenus issus du secteur extractif. Et nous pouvons dire qu'en 2021, les données qui ont été fournies par les structures étatiques et les structures extractives nous ont permis de comprendre que l'ensemble du secteur des mines et du pétrole, pour l'année 2021, les revenus ont atteint 435,87 milliards de francs CFA contre 389,86 en 2020. Donc, il y a eu quand même des progrès en termes de chiffres. En termes de performance, nous pouvons également relever le fait qu'au niveau social, il y a également des contributions qui sont faites par les structures pétrolières et minières qui ont permis d'améliorer également les conditions de vie des populations en termes d'infrastructures et autres. Il y a une amélioration également de la contribution du secteur extractif au niveau du budget de l'État.
On veut savoir, est-ce que vous vous intéressez aussi au phénomène de l'orpaillage clandestin?
Le gouvernement s'intéresse à cette question et au niveau de l'ITIE, ce qui est intéressant dans la norme, il est demandé à ce que le Conseil national puisse réfléchir à toute problématique qui intéresse le gouvernement, le secteur extractif. sportifs et puis la société civile. La question de l'orpaillage intéresse le gouvernement au plus haut niveau, la société civile et le secteur extractif. À ce titre, nous avons dans notre plan de travail 2023 et 2024, nous avons intégré des recommandations de plusieurs études qui ont été réalisées, que ce soit par la société civile, que ce soit aussi par les structures au niveau international, pour voir comment adresser cette question et intégrer la traçabilité du secteur artisanal de façon globale, mais aussi de façon spécifique de tout ce qui est semi-industriel et industriel au niveau du rapport ITE.
On veut avoir juste une idée sur l'ITE et le processus de Kimberley. C'est un rapport?
Kimberley est une autre initiative qui concerne le secteur du diamant. Nous collaborons avec le processus de Kimberley puisqu'il s'agit de transparence et le secteur du diamant est également une ressource qui fait partie de la mission de l'ITE. Mais le processus de Kimberley en lui-même, il y a un organe qui est adapté et qui a été créé comme l'ITE qui met en œuvre ce processus.
Monsieur Julien Tinguin, vous êtes directeur technique au Conseil national ITE Côte d'Ivoire. Merci d'avoir répondu à nos questions.
C'est moi qui vous remercie, monsieur Marilly.
Julien Tinguin, le directeur technique au Conseil national de l'ITE, était interrogé par Constant Maïlé. Cet entretien qui sera rediffusé dans le bulletin de 12h marque la fin de cette première édition. Le rappel de l'essentiel. Rumeur du décès d'un étudiant ivoirien dans des incidents au Sénégal au soir de l'élimination de la CAN des Lions de la Teranga par les éléphants de Côte d'Ivoire. L'ambassade de Côte d'Ivoire dans le pays dément l'information et appelle au calme et à la retenue. Les 7h passées de 21 minutes à Ouyansou, à Bouaké, c'est la même heure dans les studios de Radio de la Paix à la Riviera 4. Fin de ce bulletin, merci de votre attention, je vous retrouve à 8h.
Radio de la Paix, l'info juste et sans passion.